Donc on va lire trois textes maintenant pour ce message sur le thème de l'Avent. Alors il n'y a pas de vidéoprojection de PowerPoint ce matin, mais vous serez d'autant plus attentifs à la lecture de ces textes, en tout cas pour ceux qui ont des Bibles. Trois textes que je vais lire. Le premier texte dans le prophète Malachie, chapitre 3. Alors, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4. Voici, j'enverrai mon messager. On sait qui c'est le messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc là, il est parlé de ce messager qui prépare le chemin du Seigneur, c'est bien sûr Jean-Baptiste, et après, donc, il est question du Seigneur qui va rentrer dans le temple, et ce Seigneur, bien sûr, c'est le Sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on peut faire un rapprochement avec ce que Jésus a fait quand il est monté à Jérusalem et qu'il a purifié le temple, en quelque sorte. Hein. Donc cette parole était bien sûr adressée au peuple d'Israël, mais elle a eu son accomplissement bien au-delà du peuple d'Israël. On va lire un deuxième texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Ah, le voilà, le messager. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance » et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Bon, déjà, dans ce texte, on voit l'élargissement, l'accomplissement des prophètes. Bon, là, il cite Ésaïe, mais on a vu aussi Malachie. On voit l'accomplissement et aussi l'élargissement de la prophétie, puisqu'elle s'adresse aussi finalement, ce chemin que prépare Jean-Baptiste et la venue de ce sauveur va toucher de façon plus large, au-delà du peuple d'Israël, au-delà de l'aspect ethnique et de la prophétie restrictive du peuple d'Israël, les nations, puisqu'il est dit, et c'est le propos de Jean-Baptiste là, au verset 9, « Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Ne dites pas, donc ne vous confiez pas simplement à votre ascendance, aussi extraordinaire soit-elle, à votre lignée, à votre généalogie, parce que Dieu va susciter finalement des enfants d'Abraham au-delà de ce que vous pouvez penser, au-delà même des aspects ethniques. Et puis un troisième texte, donc, dans Jean, chapitre 1, versets 15 à 34. Jean 1, 15 à 34. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Mais toi, qui es-tu ? » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Mais quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Ils lui posèrent encore cette question « Mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie ?» ni le prophète. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Voilà, jusque-là, notre lecture de ces textes. Donc, c'était important de voir un peu l'ensemble de ces textes. Alors, on n'a pas lu, on ne va pas lire tous les textes, bien sûr, qui se rapportent à Jean-Baptiste et à la préparation, à toutes ces prophéties qui annoncent la venue du Sauveur, bien sûr. Mais des textes qui me semblaient importants pour parler donc de cette période qui précède la venue de Jésus et que dans la tradition chrétienne on appelle l'Avent, je précise encore une fois, A-V-E-N-T, même si effectivement l'homophonie avant joue un peu puisque effectivement c'est un temps qui précède la venue du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut, d'où vient cette, d'abord d'où vient ce terme et ce mot avant? Bon, ça vient de, vous savez que dans la Rome antique, on appelait ça l'Adventus, c'était une cérémonie qui était là pour fêter la venue d'un empereur dans une ville ou un autre dignitaire de Rome. Et donc, pour l'accueillir officiellement, on faisait un adventus, c'est-à-dire une fête, une solennité, pour déjà annoncer sa venue et bien sûr le jour de sa venue. Donc, l'avant, ça vient de ce mot, ce mot latin, ce qui advient, adventus, ce qui va arriver, l'avènement de quelqu'un ou de quelque chose d'important. Alors du coup, la période de l'Avent, c'est cette période durant laquelle les chrétiens se préparent spirituellement pour mieux célébrer ce grand événement qu'est la venue du Sauveur. Dans le cadre de cette tradition de Noël, on ne va pas polémiquer sur la question de date. Il y a un théologien suisse, Oscar Kuhlmann, qui a écrit tout un livre sur cette question-là. Parfois, l'Église d'Orient et d'Occident, la tradition latine ou orientale, ils se sont battus sur ces dates-là. Je crois qu'en Orient, chez les orthodoxes, c'est en janvier, le 6 janvier. Mais bon, en réalité, la date elle-même n'a pas une grande importance. La question, c'est de donner du sens, de faire sens à ce que nous faisons. Et puisque c'est ces dates-là qui sont retenues dans notre société, autant le faire ce jour-là. Alors, cette période de Noël, c'est une période durant laquelle donc, les chrétiens se préparent pour préparer ce grand événement qu'est la venue du Sauveur, du Messie. Je rappelle que Christ, c'est le mot grec pour dire Messie, Machiar en hébreu, donc c'est celui qui vient de la part du Seigneur pour établir le royaume de Dieu, pour sauver, pour purifier son peuple, et pour se constituer un peuple, le purifier et sauver. Donc pourquoi se préparer pour cette célébration ? Bien, considérons les choses simplement d'un point de vue humain. Quand vous allez recevoir quelqu'un chez vous, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, d'accueillir des invités, des amis ou la famille, j'espère en tout cas. Alors bon, des fois on n'a pas forcément la place. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous préparez. Vous commencez à nettoyer la maison, etc. Je vois ma femme souvent qui s'affaire pour ça. Et donc on veut honorer. On veut honorer notre invité, on veut honorer la famille, et donc on se prépare tout simplement, bien parce qu'on veut pas être pris au dépourvu, et puis aussi parce qu'on veut tout simplement honorer nos invités. Et même on va peut-être préparer aussi, on regarde les menus, on va aussi peut-être préparer des activités, des visites, je ne sais trop quoi, mais enfin bon bref, on se prépare. Bon, ben nous, il se trouve que celui qu'on accueille, c'est pas n'importe qui. La venue du Fils de Dieu sur terre, à la personne de Jésus, invité de Marc s'il en est, bien c'est un événement donc décisif pour l'histoire de l'humanité. Vous le savez, Dieu s'est fait homme parmi les hommes pour nous conduire au salut, pour nous révéler Dieu, pour nous faire connaître sa volonté. Il a pris chair. Il a pris chair. C'est H-A-I-R, bien sûr. C'est l'incarnation. L'incarnation, la parole faite chair. Le verbe fait chair. Et ça, l'incarnation, c'est quelque chose, c'est un événement important. Et beaucoup de théologiens disent qu'à partir du moment où on admet vraiment la possibilité que Dieu, le miracle, que Dieu vienne dans un corps d'homme, eh bien, toutes les autres doctrines s'ouvrent à nos yeux et à notre entendement. Donc la doctrine de l'incarnation est importante. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu dans un homme pour conduire son peuple au salut. Le prologue de Jean le dit clairement, il est venu chez les siens. Dans Jean 1, le chapitre 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors là, siens, c'est le peuple juif, certainement, mais à tous ceux, le texte continue, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, préparons-nous vraiment à accueillir cet événement cette fête de Noël comme un temps béni, un temps glorieux, puisque c'est la venue de celui qui sauve, celui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un événement décisif pour l'histoire de l'humanité dans le plan du salut, parce que c'est la venue du Sauveur dans la personne de Jésus, qui a partagé, et c'est ça le sens de l'incarnation, venir dans la chair incarnée, il a partagé en tout point le Fils divin, la parole, a partagé en tout point notre condition humaine. Et je dis bien en tout point, à l'exception du péché. Alors, la romancière anglaise Dorothy Sayers a dit une chose intéressante. Elle a dit « La signification de l'incarnation est que Dieu ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'ait déjà exigé de lui-même. Il a lui-même subi tout ce qu'un être humain peut subir. » C'est ça ce que nous dit l'incarnation. Des petites contrariétés, il a subi de la vie familiale. Vous savez qu'à un moment donné, sa famille s'approche de lui pour le voir. Et il est méprisé, on se moque de lui. Il dit, il est fou, qu'est-ce qu'il fait ? Donc il a subi ça, les moqueries, les contrariétés de la vie familiale, jusqu'aux douleurs les plus atroces, aux humiliations et au désespoir de la mort sur la croix. Donc Dieu s'est fait chair dans tous les sens du terme. Et ça, c'est une vérité que nous devons vraiment méditer profondément. Pendant toute cette période de l'Avent, qu'est-ce que nous allons faire ? Bien, nous allons nous rendre attentifs à la parole des prophètes, comme on a lu là, qui annonçait sa venue. Nous sommes attentifs dans le but de mesurer la grandeur de cet événement, le privilège que nous avons de recevoir dans nos cœurs le Messie promis. Nous sommes attentifs, comme l'étaient les prophètes, comme l'étaient les croyants dans le Nouveau Testament, comme Anne et Siméon, qui attendaient avec impatience ce moment extraordinaire où Dieu allait visiter son peuple. Et donc, pendant cette période de l'Avent, nous profitons de ce temps pour être vigilants, attentif aux paroles de Dieu, attentif à ses messagers. Si nous sommes vigilants, c'est en vue d'un changement de vie, en vue d'une conversion intérieure. En fait, nous profitons de ces dates qui reviennent chaque année pour préparer nos cœurs, afin de nous tourner vers celui qui est la lumière du monde. L'Avent, donc cette période de l'Avent, c'est donc un temps d'espérance. Une invitation au réveil et à la conversion spirituelle. Alors, pour certaines personnes attachées à des traditions chrétiennes, cette préparation des cœurs, elle peut passer par l'installation d'une crèche, d'un sapin, d'une couronne sur la porte d'entrée, de festivités aussi, de rencontres familiales. Ne méprisons pas ces traditions, frères et sœurs. Ne méprisons pas ces traditions, elles peuvent permettre à certains de revenir au cœur de ce qui devrait être essentiel dans leur vie, la foi. Mais la préparation fondamentale, bien sûr, durant ce temps de l'Avent, c'est avant tout une préparation personnelle, intérieure, intime et spirituelle. Quand nous pensons à cet enfant mailloté dans la crèche, ce sont alors les paroles des prophètes qui résonnent dans nos cœurs, notamment la parole du prophète Ésaïe, « Un enfant nous est né ». Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Ce n'est pas uniquement un enfant né, un enfant nous est né, c'est aussi un fils qui nous est donné. Un fils donné. Je voudrais insister sur cette expression, un fils donné. Il nous est donné pour nous assurer que nous ne serons plus jamais seuls, plus jamais sans espérance en ce monde. C'est pas rien. Pourquoi nous ne serons plus jamais seuls ? Parce que le texte du prophète continue, Ésaïe, parce que la domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire qu'il aura l'autorité pour accomplir toute la volonté de Dieu et pour accomplir le salut à notre égard. Il aura l'autorité divine pour sauver, pour guérir et restaurer. un fils nous est donné. Un enfant est né, un fils nous est donné. Un fils a une généalogie, une histoire, une appartenance, mais celui-ci, ce fils, il a une autorité, une domination divine. C'est pour cela d'ailleurs que l'évangile de Matthieu commence par une généalogie. Il est à la fois la parole et l'homme Jésus qui a porté sur lui notre péché. Et il fallait que ce soit un homme, et il fallait aussi que ce soit Dieu lui-même qui accomplisse ce salut pour qu'il soit parfait. Donc l'incarnation, c'est vraiment une doctrine qu'il nous faut méditer en ces temps, et c'est vraiment le moment ou jamais pour méditer ces choses-là et pour nous remplir de cette pensée que Dieu est venu parmi les siens, parmi nous, pour accomplir la volonté de Dieu. Il a été donné, un fils nous est donné. Il a été donné à qui ? À l'humanité. Encore faut-il le reconnaître comme admirable, conseiller, comme le dit le prophète, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Raison de plus donc pour l'attendre avec foi. Un fils donné pour constituer une famille qui va transcender les frontières érigées par les hommes. Il n'y a plus ni juif ni grec, dira Paul. Un fils donné pour révéler le Père et le glorifier. Alors plutôt que de se gaver de nourriture et de distraction, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour nous retrouver en famille devant ce fils qui nous est donné, ou entre amis, ou entre frères et sœurs, et revenir au cœur de cet événement. L'attente de ce fils donné. Alors éteignons un temps nos portables, peut-être pas toute la semaine évidemment, surtout dans cette période, mais pourquoi pas pendant un jour, éteignons nos tablettes, nos télés, profitons de ce temps de l'Avent pour prier, peut-être différemment, en méditant sur l'incarnation. Profitons de ce temps pour lire un évangile, par exemple l'évangile de Luc, 24 chapitres, on peut lire 2 chapitres par jour, ça prend quoi, même pas 10 minutes. Profitons de ce temps pour lire un évangile pendant cette semaine de fête. En tout cas, voilà, préparons-nous à recevoir par le Saint-Esprit vraiment le Seigneur dans nos cœurs d'une façon toute particulière. Alors Jean-Baptiste, ce précurseur, celui qui prépare le chemin du Seigneur, bien c'est le prophète de l'attente par excellence. Comme nous l'avons lu dans le texte de Matthieu, de Malachie, pardon, 3, et de Matthieu et de Jean aussi, Jean-Baptiste appelle sans cesse le peuple de Dieu à se convertir, à se repentir de ses péchés, à se préparer pour accueillir le Messie. Alors n'est-ce pas notre vocation de disciple de Jésus de l'accueillir sans cesse pour qu'il ait toujours la place du roi dans nos vies, dans nos décisions ? Ne pourrions-nous pas écouter à nouveau la voix de Jean-Baptiste et regarder dans la direction qu'il nous montre quand il dit par exemple aux gens qui sont là, aux pharisiens, aux sadducéens, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici, voici, il nous fait signe, il s'approche de nous, il s'approche de toi ce matin. » Écoute bien les paroles de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Écoute bien ces paroles pour marcher dans les pas de celui qui vient. Mais Jean-Baptiste est certes un témoin qui nous fait signe, mais Marie aussi est aussi un témoin de la foi. Ah, je sens un frémissement dès que je parle de Marie. Je suis en contexte protestant évangélique. Il faut que je fasse bien attention à ce que je vais dire sur Marie. Il y a toujours une sorte de fébrilité dans nos milieux dès qu'on parle de Marie. Qu'est-ce qu'il va dire sur Marie ? Alors rassurez-vous, je ne crois pas à l'Immaculée Conception ni à l'Assomption de Marie. Je ne crois pas à ces deux dogmes. Qu'elle serait née sans péché et qu'elle aurait donc, ça c'est pour l'Immaculée Conception, ou qu'elle serait passée au travers de la mort et qu'elle n'aurait pas vécu la corruption de la mort. Bien évidemment, c'est pas dans mon programme. Mais Marie est vraiment un témoin qui fait signe, un témoin de la foi. Faites tout ce qu'il vous dira. a-t-elle dit le jour de ce mariage fantastique où Jésus a changé l'eau en vin. Elle a aussi entendu la parole de Dieu lui annonçant la venue en son sein du Messie promis. Elle a fait plus que l'entendre. Elle y a bien prêté attention et elle s'est soumise à sa parole. Elle fut pendant 9 mois, c'est pas rien, porteuse de cette promesse dans sa chair même. Et dans cette attente, elle a gardé dans sa chair le Christ, la parole faite chair. Quel privilège! Une grâce lui a été faite, oui, on peut le dire. Et non pas elle qui est remplie de toutes les grâces. Ça, c'est une traduction, je crois, liée à la traduction latine. Une grâce lui a été faite, comme Dieu nous fait grâce aussi en ce jour de le connaître. Elle a accueilli donc dans sa vie cette parole. Et ce ne fut certainement pas facile pour elle. On pense qu'elle devait avoir 16 ans, à peu près. Mais en dépit de sa situation sociale et familiale compliquée, elle a tenu tête à tous ses détracteurs, à tous ceux qui l'accusaient, à tous ceux qui la dénigraient, à tous ceux qui se moquaient d'elle. Qui d'autre mieux que Marie, dans cette attente d'une parole promise, pourrait être un exemple pour nous qui fait signe dans cette préparation, dans cette attitude humble et obéissante. Un exemple à suivre, oui, afin de mieux disposer nos cœurs à recevoir Jésus. Alors comme Marie, comme Jean-Baptiste et tant d'autres, comme Anne et Siméon, entrons dans la confiance que sa parole est vérité et qu'elle s'accomplit sûrement. La Bible nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Environnés d'une nuée de témoins. Des gens qui ont attendu dans la foi, ils n'ont peut-être pas vu la réalisation, mais ils savaient que c'était une promesse divine et ils l'ont attendu avec foi. Et l'Avent, la période de l'Avent, c'est ça. Cette période d'attente, non pas passive, mais active, où nous attendons avec foi la promesse de Dieu se réaliser. Ça nous parle de la patience. Ça nous parle de cette attente fervente et persévérante. C'est le cas donc pour tous ceux qui attendaient avec foi la venue du Messie à ce moment-là. Ils l'ont attendu avec patience et persévérance. Et donc ce temps de l'Avent nous parle de cette patience et qui nous montre aussi que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous, que son calendrier n'est pas le nôtre, ne se cale pas sur nos propres attentes. Ça aussi, c'est une idée à méditer pendant cette période-là. Mais c'est exactement l'inverse. C'est notre calendrier qui doit se caler au sien. D'ailleurs, je dis en passant quelque chose, qu'un calendrier liturgique n'a rien de mauvais, bien au contraire. Il nous permet de comprendre que nous nous calons sur le temps de Dieu à différentes périodes de nos vies. Au-delà de toute... de certaines traditions que nous n'avons pas à suivre. Mais l'idée d'un temps de Dieu que nous suivons et d'un calendrier ou d'un calendrier liturgique n'est pas bête en soi. Parce qu'on dit toujours oui, mais ça c'est tous les jours, oui, mais tous les jours, mais est-ce qu'on le fait réellement? Et des fois, il faut des dates précises où on se dit là, je vais penser à ça, là, je vais faire ceci, là, je vais faire cela. Vous le savez comme moi, sans discipline, on ne fait pas grand-chose, on n'arrive à rien pratiquement. Moi, je ne me suis pas levé le matin en me disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire une gamme en fa majeur du deuxième degré. » Là, et j'ai travaillé pendant des heures et des heures mes gammes. Ça ne m'est pas tombé du ciel. Donc, à un moment donné, on cale des choses dans nos vies pour s'y plier parce que, bien dans cette discipline-là, il y a une bénédiction de vie et le Seigneur nous y rejoint d'ailleurs. Donc, le temps de Dieu n'est pas le nôtre et il est bon vient de s'y plier. Marie elle-même l'exprime en ces termes dans son cantique, suite à la promesse qu'elle porterait l'enfant roi Messie. Qu'est-ce qu'elle dit? Il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham. Imaginez que depuis 400 ans, il n'y avait plus de parole prophétique quand Marie reçoit de la part de l'ange cette parole qu'elle va porter le Messie. Depuis Malachie, le texte qu'on a lu jusqu'à Jean-Baptiste, 400 ans se sont écoulés. C'est pas rien, 4 siècles, ça fait long quand même. C'est long, 4 siècles. Vous imaginez l'attente? Bon, nous, on ne va pas attendre 4 siècles, hein, bien sûr, mais enfin bon. Nous devons apprendre à cette attente. Et plus on attend dans cette foi, plus la réalisation est d'autant plus glorieuse. Le temps peut nous paraître certes interminable, mais quand Dieu décide d'agir, bien la réalisation de la promesse est bien plus grande que ce qui était espéré. Alors, je voudrais terminer et conclure ce message ainsi. Pendant ce temps... Ah mais je croyais que j'avais un PowerPoint, c'est l'habitude. Pendant ce temps de l'Avent, pouvons-nous méditer cette parole de Marie ? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le serviteur du Seigneur, la servante. Je suis ton serviteur, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ou bien, comme Jean-Baptiste l'a dit, qu'il croisse et que je diminue. Voilà donc un précurseur, hein, qui a su eh bien, s'abaisser, se retirer, se faire humble devant le Messie roi pour qu'il grandisse, qu'il soit glorifié. Eh bien, prenons exemple sur ces hommes et ces femmes de foi. Prenons exemple sur Marie, sur Jean-Baptiste, sur Anne, Siméon, Zacharie, pendant cette période de l'Avent, que nous puissions méditer dans ces temps le mystère de l'incarnation qui est vraiment porteur du salut, d'une promesse extraordinaire. Voilà, je vous invite à la prière.